Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue à tous dans l'équipe est sauvage. 2 heures de découverte rieuse pour vous, d'un impitoyable combat pour eux. Car oui, ils se croyaient amis pour la vie, mais depuis que je les ai placés en compétition, chaque après-midi, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 ne peuvent plus se blairer. Tous les jours, entre 16h et 18h, ils se déchirent au service de votre culture G. Celui ou celle qui vous aura offert l'info ou l'histoire la plus palpitante sera élu chroniqueur du jour. Et parfois, c'est vrai, entre eux, le ton monte.
Ma tête pas dans le dos, je vais te perforer le thorax, c'est ça.
J'en veux me sortir ta licence.
Qui l'emportera aujourd'hui? Je vais vous dire, on s'en fout un peu. Car aujourd'hui, est un des plus beaux jours de ma vie, je reçois Michel Blanc. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel Blanc, déjà invité extrêmement pratique, puisqu'on zappe les 4 minutes de monologue où je dois expliquer qui est l'invité, ce qu'il a fait, pourquoi il est connu. Là, Michel Blanc, c'est tout simplement Michel Blanc, hein. Les bronzés, tenue de soirée, grosse fatigue, marche à l'ombre, l'exercice de l'État. Vous avez eu le bon goût de jouer dans le film culte de mes films cultes, Les Grands Ducs, aux côtés des 3 regrettés, Marielle, Rochefort et Noiret. J'espère qu'on aura le temps d'en dire un mot tout à l'heure. Et la semaine prochaine, vous serez à l'affiche d'une comédie qui va nous faire beaucoup de bien, Docteur de Tristan Seguela avec l'excellent Hakim Gemili. C'est rare que vous ayez un coup de cœur pour un scénario à ce point, puisque j'ai lu, vous avez dit, si Tristan Seguela n'avait pas porté le projet, eh bien, vous l'auriez bien réalisé vous-même, ce scénario.
J'ai dit ça, moi?
Vous avez dit ça, Michel.
Je veux des preuves. Vous avez un document signé?
J'ai un document de vous signé.
Bon, non, ce que je voulais dire par là, c'est que c'était extrêmement bien écrit.
Et c'est rare, c'est de plus en plus rare, les scénarios bien écrits qui vous arrivent.
Pourquoi je tourne aussi peu, à votre avis? Parce que je suis fainéant, parce que j'aime pas mon métier. Non, c'est parce que c'est vrai, c'est pas très courant.
Donc là, vous avez vraiment été emballé.
Oui, vraiment.
On va parler de ce film et du tandem savoureux que vous formez avec Hakim Gemili. Mais d'abord, je vous présente les forces en présence aujourd'hui. À mes côtés, pendant des années, elle a supporté mon mauvais caractère. Elle a encaissé mes remarques parfois désobligeantes, mes moqueries incessantes. Elle m'a tendu une oreille attentive quand je lui exposais mes doutes, mes angoisses, mes névroses. Puis hier, ça a été la réplique de trop. Je lui ai dit, dis donc Eva Rock, vous auriez pas dans l'idée de vous taper un comique des fois?
La réponse vous suffit, il faut que je développe. Maintenant, vous allez me faire le plaisir de prendre une douche, de vous habiller et de laisser tomber votre numéro de sous Woody Allen Franchouillard. Parce que moi, les clowns angoissés, je trouve ça chiant.
Ok, Eva. Eva Rock, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout à l'heure, si vous êtes d'accord, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. Ouais. Mais d'abord, je me permets de présenter à Michel Blanc nos 2 premiers journalistes en compétition cet après-midi. À ma gauche, il est l'expert littérature d'Europe 1. Du haut de ses 1m83, 9T dans Télérama vous contente, Michel Blanc. Je vous présente Nicolas Caro, dont l'érudition littéraire est proprement stupéfiante. Pour un animateur, c'est évidemment fabuleux. Je sais que dans sa chronique, je peux lui poser n'importe quelle question. Il aura forcément la réponse.
Tolkien. J.R.R. Tolkien.
Ah, c'est quoi? Dites-nous déjà ce que ça veut dire J.R.R.
Je sais plus.
Eh ben, bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Bernard Pivot l'a annoncé. Fini le jury du Goncourt pour lui. L'occasion de comprendre comment est nommé le président du plus célèbre prix littéraire de France, ses prérogatives, son salaire, son rôle. Là, vous avez bossé cette fois?
Oui, et puis j'ai une anecdote inédite pour vous.
Croustillante ou pas?
Croustillante.
Très bien. À ses côtés, Michel Blanc. Alors là, c'est la rencontre de 2 géants de l'humour. Puisque Thierry Geoffroy-Tin, ce n'est pas qu'une expertise musicale hors norme, c'est également une verve de chaque instant, comme a pu le constater hier notre invité, le trompettiste Ibrahim Malouf.
Est-ce que tu serais en train de dire que Ibrahim Malouf est pistonné?
Oh, il applaudit.
Bonjour Thierry Geoffroy-Tin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes l'expert musique classique d'Europe 1 et aujourd'hui vous nous parlez de Michel Legrand qu'on va pouvoir redécouvrir grâce à un nouvel album.
Alors c'est un album de Richard Galliano à l'accordéon qui reprend ses tubes, mais moi je vais vous parler d'un Michel Legrand finalement qui n'a pas existé. Il aurait dû faire de la musique classique, figurez-vous.
Il aurait dû se consacrer à la musique classique.
Ouais.
Merci Thierry, voilà pour notre feuille de route cet après-midi. J'ajoute qu'en l'honneur de notre invité, l'intégralité de cette émission ne sera ponctuée exceptionnellement que d'extraits de films avec Michel Blanc.
Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Docteur avec un point d'interrogation, c'est le nouveau film de Tristan Seguela avec Michel Blanc. Ça sort mercredi prochain. C'est un buddy movie basé sur un tandem.
Voilà, je préfère en français. Moi,
basé sur un tandem.
Du réflexe.
Et alors, pour que ça fonctionne, il faut que le tandem, qu'il y ait une alchimie qui se forme dans le tandem. Là, avec Hakim Gemili, on peut dire que c'est le cas. C'est une vraie belle rencontre, ça.
Oui, quand Tristan m'a montré les essais d'Hakim, j'ai dit, d'abord j'ai éclaté de rire, j'ai dit oui, il est formidable, il est très doué. Le problème, c'est de savoir quand on va jouer avec, si y a l'électricité
si
va circuler entre les deux. Et ça, on ne peut le savoir que quand on commence à jouer. Et ça s'est vraiment produit. Et d'ailleurs, ça a été de plus en plus fort. Et maintenant, on a même une espèce de complicité. On a fait des présentations un peu partout en France. Et à la fin, il y a des débats. Et on faisait presque des numéros de stand-up à deux. Et c'était très, très rigolo parce que, voilà, on était un peu sur la même longueur d'onde.
Vous le connaissiez avant, parce qu'il faut dire qu'Hakim Gemini n'est pas connu au cinéma. C'est son premier film. Par contre, c'est une énorme star sur Internet. YouTube, il a des millions de vues sur YouTube. Vous ne l'aviez pas vu avant.
Non, je ne le connaissais pas.
Alors,
non,
on rappelle peut-être le pitch du film.
Mais oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Parce que qu'un duo fonctionne, bon, très bien, mais il faut qu'il fonctionne super bien parce que vous êtes de tous les plans, vous êtes tous les deux. Il n'y a que vous quasiment dans le film. En fait, vous jouez Serge, Michel Blanc, qui est un médecin de SOS, médecin de garde de nuit. On est le soir de Noël.
Un peu désabusé.
Et usé.
Voilà. Tous les collègues se sont défilés. Vous êtes le seul à devoir officier. Et puis, vous faites une rencontre improbable avec un livreur, Uber Eats, hein, pour pas nommer la marque en question, qui lui rêverait bien d'être médecin en fait.
Ah bah pas au début
non, mais tout ce qu'il veut c'est livrer
sa choucroute là. La première c'est le choucroute et c'est la seule chose et c'est un peu conflictuel notre rencontre parce qu'il essaie de rentrer avec le Vélib parce qu'il s'est fait tirer son vélo avec le Vélib dans l'ascenseur, donc la première rencontre elle est un peu tendue
exactement. Et puis en fait il va devenir votre aide, votre j'allais dire votre aide-soignant, c'est pas ça, mais
si,
en fait
c'est ça
quand même aussi.
Il va faire le boulot
Nous allons inventer
la télémédecine.
Voilà, c'est exactement ça.
Qui arrive demain, elle est déjà sans suivi. Il sera mercredi prochain à l'affiche de Docteur avec un point d'interrogation de Tristan Seguela. Michel Blanc passe l'après-midi avec nous.
Europe 1.
À suivre, cultivé, désinvolte, facile, le dandy d'Europe 1 s'apprête à entrer en piste. Oui, mon cher Michel Blanc, vous voyez bien sûr de qui je veux parler.
Le roast beef, là, avec sa tronche de cornemuse mouillée, qui me pousse deux fois du coude.
Ah non, Michel, Nicolas n'est pas roast beef, elle a juste un côté british dans l'élégance, peut-être. Et à l'heure où Bernard Pivot se retire du jury Goncourt, il n'y avait que lui pour nous expliquer comment fonctionne un prix littéraire de l'intérieur. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1 et l'équipe est sauvage et comme la grève, elle continue. Alors, Dieu sait que cette reprise par Gilbert Montagnier mérite notre attention, mais si nous pouvions néanmoins la couper au plus vite, ça serait gentil pour notre invité Michel Blanc, qui en a peut-être un petit peu marre de cette chanson. Michel, on peut
oui,
vous pouvez l'avouer.
Oui, plus, je l'ai détestée dès le début.
Ah vous êtes deux, vous savez qui est l'autre? Enfin, il y a peut-être d'autres, mais
quelqu'un qui déteste cette musique.
Très important pour le film Les Brandes font du Sud, qui déteste cette musique. Et qui l'a détesté déjà dès le début.
Qui est dans le film?
Il l'a réalisé, c'est Patrice Lecomte, le réalisateur des Bronzés Fondus Ski, il nous confiait.
On ne s'est jamais parlé de ça.
Eh bien, écoutez. Patrice, entre nous, vous ne pouvez plus l'entendre, cette musique.
Ah non, mais j'ai jamais pu l'entendre.
Ah, vous n'avez jamais pu l'entendre, c'est bon.
C'est Pierre Bachelet, paix à son âme, qui. Je préférais quand il chantait Les Corons, moi.
Et oui, lui non plus, comme quoi personne ne peut supporter cette musique.
Ben, non, si,
les producteurs, ça leur a plu. Alors Michel Blanc, on continue d'évoquer votre incroyable carrière et ce nouveau film Docteur à l'affiche duquel on vous retrouve la semaine prochaine. Mais l'heure est venue d'écouter notre premier journaliste en compétition cet après-midi. Voici Michel, Nicolas Carreau.
Tu le trouves pas un peu bizarre toi ce mec?
Oui, c'est normal, les critiques littéraires, ils sont tous bizarres. Avantageux néanmoins quand il s'agit de comprendre comment fonctionne un prix littéraire. Mmh. Le Goncourt en l'occurrence, Nicolas.
Et oui, parce que Bernard Pivot a annoncé son départ. Enfin, c'est l'Académie Goncourt qui a annoncé le départ de Bernard Pivot. Pourquoi il s'en va? Et il a été très clair, c'est parce qu'il en a marre. Marre de passer tous ses étés à lire. Et puis il a 85 ans bientôt, donc il veut lever le pied un peu, on peut comprendre. D'autant que, on le sait peu, mais le Goncourt, c'est énormément de travail. C'est une réunion par mois qui dure 3-4 heures de travail. C'est les Goncourts étrangers, il faut se déplacer pour les serrer les mains, etc. C'est beaucoup de voyages, donc. Et puis c'est des dizaines et des dizaines de livres à lire quand même.
Des centaines maintenant?
Ouais, bon, enfin, jusqu'à une centaine, je pense. Ils lisent pas quand même les 500 livres de la rentrée pour trouver le meilleur. Mais enfin, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et ils sont payés rien du tout, en plus. Hein, on le sait pas, ça.
Ah,
mais
c'est complètement bénévole.
Avant, les membres du jury touchaient un salaire équivalent à un petit salaire de fonctionnaire, m'a-t-on dit. Mais maintenant, c'est gratuit, c'est bénévole. Alors, c'est prestigieux. Hein, c'est la récompense littéraire la plus importante du monde francophone. Mais c'est complètement bénévole. Donc, Bernard Pivot parti, il faut élire un nouveau président.
Comment ça se passe?
Ça veut dire qu'il faut d'abord recruter un nouveau membre. Ils doivent être 10 en tout. Donc pour ça, le jury contacte des candidats auxquels eux-mêmes ont pensé. Et ils étudient les candidatures spontanées. Ne vous inquiétez pas, Mathieu.
Ensuite,
ils pourront choisir parmi les membres un nouveau président. Pour l'instant, c'est Françoise Chandernagor, la vice-présidente, qui assure la fonction. Et l'élection aura lieu le 21 janvier. Normalement, ce sera un écrivain, puisque ça a toujours été le cas, sauf pour Bernard Pivot, qui était l'exception. Alors, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'autant que le Goncourt s'est fait de plein de petites histoires tout le temps, et d'injustices aussi, de déçus, comme quand Houellebecq l'a pas eu, il était fou de rage, il le disait partout, ou Amélie Nothomb, cette année, quand même, elle a fait partie trois fois de la sélection du Goncourt. Elle l'a toujours pas, alors que son bouquin, franchement, celui-là, il méritait. Et puis, alors, il y a plein d'anecdotes du Goncourt, je vais pas toutes les faire, mais il y en a une que j'ai appris récemment, c'est Pierre Assouline, membre du jury et historien du Goncourt, qui me l'a raconté. C'était en 1951. Julien Gracq gagne le Goncourt pour Le Rivage des Sirtes. Or, il vient de publier un pamphlet qui dénonce la médiocrité des prix littéraires. Donc, il refuse le Goncourt, ça on le savait. Mais il n'a pas le choix. Comme le Nobel, vous l'avez, que vous le vouliez ou non. Mais donc, ça fait beaucoup de bruit dans la presse. Et un petit groupe de surréalistes décide de faire un happening, de kidnapper Julien Gracq. La suite, c'est Pierre Assouline qui raconte. C'est une histoire très peu connu qu'il n'a jamais raconté.
C'était vraiment des branquignoles, hein, parce qu'ils ont fait leur groupe, leur commando, et ils ont tiré au sort celui qui allait effectivement l'attraper pour l'envoyer dans une fourgonnette et qui passait. Et c'est le plus jeune d'entre eux, qui avait 17 ans, qui a tiré le truc. Et il était assez gringalé. Vous savez qui c'était ?
Non.
Guy Bedos. Et alors, il s'est précipité sur Julien Gracq, et Gracq l'a poussé en disant « Qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Puis là, il est parti. Et Guy Bedos s'est resté tout penaud comme ça.
Guy Bedos, qui n'a plus Julien Gracq.
Qui a confirmé à Pierre Assouline que c'était,
il a confirmé
que
c'était la véracité de cette anecdote. Eh bien, merci pour cette belle anecdote, Nicolas Carreau, et ses coulisses du Goncourt. Votre chronique aura-t-elle tapé dans l'œil de Michel Blanc ? Michel se laisse le temps de la réflexion.
On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Réponse juste avant 18h. Europe 1. À suivre, j'ai tant de questions à poser à Michel Blanc. Où sont passés les rushs de...
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Thérèse.
Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce.
Il y a dû avoir plusieurs prises. Il doit y avoir des rushs quelque part.
Peut-être. Ou alors c'était très spontané.
Pourquoi ne joue-t-il qu'un petit rôle dans Papy fait de la résistance ? Ça aussi, je me pose la question. Comment était Jean Rochefort en vrai ? Et enfin, comment a-t-il fait pour rester sérieux face à Depardieu en slip léopard, en tenue de soirée, quand ce dernier lui dit
« J'ai un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir ?»
Oui, j'ai tellement de choses à aborder avec Michel Blanc que je crois que je vais devoir faire comme avec mon psy, fixer déjà un autre rendez-vous. Bref, c'est Noël pour moi, mais c'est aussi Noël pour vous. Vous, mes petits vénards, aujourd'hui.
J'adore ces petites clochettes qu'on entend au loin. Vous les entendez ou pas ?
Oui, vous avez su conserver votre âme d'enfant.
Oui.
C'est touchant et
mais
flippant à la fois.
Mais parce que sur Europe 1, tous les jours et jusqu'au 5 janvier, la Haute de Noël est de retour. Figurez-vous, montagne de cadeaux à gagner. Maintenant, vous le savez, des séjours de ski, des thalasso, des voyages. Et aujourd'hui, écoutez bien Mathieu, vous tentez
J'écoute
de
bien.
Gagner le pack Apple, c'est-à-dire un iPhone 11 et l'iPad Pro, le tout pour une valeur de plus de 2000 euros. Pour jouer, c'est simple. Vous vous inscrivez dès maintenant au tirage au sort en appelant le 3921, 50 centimes la minute, ou vous envoyez le mot de passe chance, C-H-A-N-C-E, par SMS au 739-21, 75 centimes plus le coût du SMS, 3 messages pour jouer. Et vous serez en plus inscrit au tirage au sort automatiquement de la méga haute de Noël.
Mais c'est dingue.
Le 25 décembre, pour tenter de repartir avec un scooter connecté dernière génération Peugeot et un séjour en thalasso. Voilà.
Mais dis donc, mes c'est cochons, magnifique. On vous gâte, hein, on peut le dire, hein,
bah
sur
oui.
Europe 1. Avec vous, Eva, la magie de Noël est bien palpable.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Édition très émouvante aujourd'hui, chers auditeurs de l'équipe est sauvage, car il y a, je n'ai pas peur des mots, une véritable communauté de destin entre notre invité Michel Blanc et moi. En effet, à cette nuance près que je n'ai ni son talent ni sa carrière, Michel et moi avons en commun le personnage gaffeur et maladroit de Jean-Claude Duss. Rôle de composition pour Michel, rôle plus instinctif pour moi, qui fait partie de ceux qu'on appelle les Jean-Claude Duss dans la vie. Nos derniers invités, dont notamment les membres du groupe IAM, ont pu le vérifier. Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage. J'ai réussi, hein, c'est le record du monde. Je me suis planté dès le deuxième mot. Adel Malik, on sait que vous êtes papa, vous avez deux enfants, si je ne m'abuse.
Trois.
Ma première question est beaucoup plus prosaïque. Quand vous avez créé NTM en 89...
On n'a pas créé NTM, on a créé IAM.
Je ne m'en lasse pas.
Ça fait quoi de rencontrer le vrai Jean-Claude Duss après toutes ces années ? Vous l'avez enfin face à vous. Ça fait drôle.
Si je vous avais connu avant, peut-être que je me serais amélioré. Hein.
Il n'y a pas du tout, alors évidemment c'est un personnage j'imagine dont on vous parle tout le temps, il n'y a pas du tout de maladresse chez vous, il y a du Jean-Claude Duss un peu en Michel Blanc ou c'est un pur rôle de composition tout simplement?
J'espère que non parce que le pauvre, sa vie est un enfer quand même hein, dans les films.
Alors Michel Blanc, je vous ai vu chez Quotidien, l'émission de Yann Barthès, expliquer avec une humilité assez invraisemblable que si le film Les Bronzés font du ski dont on fête les 40 ans cette année était culte, c'était que 1. Les chaînes de télé avaient la gentillesse de le repasser chaque hiver, et que deux, le ski n'ayant pas changé, il y a toujours des télésièges qui tombent en panne et des gens qui se vautrent comme Jotène Balasco, on s'y retrouve. Il n'y a quand même pas que ça dans les mondes des fonds du ski, il y a quand même des dialogues et c'est quelque chose.
Oui, il y a des dialogues, mais je pense que le fait que des générations des mômes qui ont 10 ans, pourquoi ils s'y retrouvent ? Parce que la neige, ça n'a pas changé. Ça fond de temps en temps, mais ça ne change pas. Et c'est ça qui les fait rire. Après, en plus, les adultes aiment bien les répliques. Mais...
Michel Blanc, le film Les Bronzés font du ski, est-ce que vous considérez qu'il est meilleur que Les Bronzés ?
Oui, je ne l'ai pas écrit, il est meilleur.
Vous avez plus écrit Les Bronzés que Les Bronzés font du ski ?
Oui, complètement. J'ai simplement retravaillé mes dialogues dans Les Bronzés font du ski, mais la structure, les scènes, les idées de scènes, ce n'est pas moi.
Et quand je vous disais que Michel Blanc, il était humble,
oui.
C'est quand même beau d'avouer
non,
ça.
Quand je suis content d'un truc que j'ai fait, je le dis, mais quand je ne l'ai pas fait,
mais pourquoi il est
bien.
Meilleur
bah, parce que j'étais, parce que j'avais pas envie de faire une suite. Voilà, je suis un peu, j'ai un peu.
Ah
un,
déjà à l'époque, parce qu'on sait que vous vouliez pas faire Les Bronzés 3, non, mais les Bronzés font du ski déjà.
Le problème, c'est que je trouvais que le producteur nous imposait de faire une suite. Nous, on avait une autre idée. Qui était assez starbé, hein, je ne sais pas si ça aurait marché, et qui s'appelait On a mangé l'hôtesse de l'air.
Donc, j'achète.
Moi aussi, j'étais très client de l'idée. Voilà, un avion qui se pose en montagne, pareil, il y aurait eu de la neige. Hein, et voilà, il y a un moment.
Il trash des bronzés pour du ski.
Voilà. Mais bon, il n'a pas voulu, parce qu'il aimait bien prendre l'avion et ça lui foutait les jetons.
Mais il faut le faire aujourd'hui, maintenant que vous cherchez à vous retrouver, que vous ne voulez pas faire peut-être. Les bronzés 4. Il faut relancer l'idée. Mercredi au cinéma, il incarne un docteur qui ne croit plus en rien, mais nous, on croit en ce film Docteur. Michel Blanc est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, zoom sur un génie. Eva, vous qui êtes mélomane et qui avez peu ou prou l'oreille absolue, vous connaissez forcément ça.
On dirait un film érotique des années 60.
C'est Michel Legrand, Eva. Michel Legrand, paix à son âme. Michel Legrand, génie de la musique. Un album de Richard Galliano qui sort lui consacré. L'occasion pour Thierry Geffrotin de poser la question.
Pourquoi il était si grand, Michel Legrand ?
Dans quel sens de la formule ? À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Il arrive parfois dans nos vies des moments comme ça qui frisent la perfection. Ma rencontre avec Michel Blanc est de cela. C'est vrai, je suis ravi de le recevoir et d'avoir l'opportunité de passer 2 heures avec lui. Et réciproquement, Michel est ravi à l'idée de passer 2 heures avec moi. Quand son attaché de presse lui a annoncé, il était enchanté.
J'ai mis l'adagio d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif et puis hop, j'ai perdu 16 kilos en un moquette.
Plaisir partagé donc, Michel.
Absolument.
On vous accueille à l'occasion de la sortie mercredi prochain de Docteur de Tristan Seguela avec Hakim Gemili, peu connu encore du grand public, mais en revanche, on l'a dit, très connu des internautes. Michel Blanc, continue d'évoquer ce film et de regarder aussi un peu dans le rétro de votre carrière. Mais voici un nouveau compétiteur qui a clairement choisi sa stratégie pour gagner aujourd'hui, la flagornerie, puisque Thierry Geffrotin va nous parler d'une figure qui incarne vos deux passions, Michel Blanc, le cinéma et la musique classique.
Oui, c'est la sortie d'un nouvel album de Richard Galliano, le grand accordéoniste, qui me donne l'occasion de vous parler de Michel Legrand, puisqu'il fait un hommage à Michel Legrand, tribute, comme on dit aujourd'hui en mauvais français.
C'est vrai.
Et on retrouve les plus belles mélodies de Michel Legrand, jouées par Galliano, c'est pas rien. Donc si je vous dis Michel Legrand, vous pensez sans doute à ça.
Ça rend bien avec
le Galliano, c'est artiste. Hein. Mais Michel Legrand, c'est aussi ça.
Ça, vous êtes sûr que c'est Michel Legrand ? Vous avez bien vérifié ?
Oui. C'est son concerto pour piano, là. Ça vous embouche un coin.
Ah oui, ça vous embouche un coin, parce que j'ai cru que vous alliez dire que Michel Legrand était passé à côté d'une carrière d'artiste.
Il avait son petit jardin pas tout à fait secret. Il a continué à composer de la musique dite classique. Et en effet, c'était plutôt après son cursus, il aurait dû continuer à creuser ce sillon. Alors, on va pas résumer la carrière de Michel Legrand, c'est trop compliqué. Mais son enfance, son père était compositeur. À 4 ans, il se met au piano. Il est déjà très doué. Hein. Il est fasciné, parce qu'il a été au cinéma, par Tino Rossi, qui interprète le rôle de Franz Schubert. Comme il est très doué, je parle...
Il a d'imagination à
ce moment-là. Mais je pense que c'est la figure de Schubert qui l'impressionnait.
Je pense que c'est plutôt Schubert que Tino Rossi.
Il entre très vite au conservatoire.
Petit papa Schubert.
Ça, c'est bon, ça. Ah, ouais. Comme il est très doué, je parle de Michel Legrand, il entre au conservatoire à 9 ans, c'est-à-dire qu'il a une dispense de 4 ans, parce qu'il faut 13 ans, l'âge de 13 ans pour entrer au conservatoire. Il fait des étincelles.
Hein. Il est très fort, c'est un génie.
Très fort. Il raconte
si, alors il en avait des anecdotes. Un jour, un examen de dictée musicale, le pianiste joue le morceau une première fois, et puis commence la dictée musicale, et Michel Legrand dit, eh ben moi, j'avais déjà tout noté dès la première fois. Vous voyez, ça, c'était le genre de Legrand qui est, c'était un génie de la musique, hein, tout simplement. Alors, ce génie... Comment il quitte
l'univers du classique ?
Eh bien, ça, c'est dingue. Parce que, en fait, après avoir travaillé avec Nadia Boulanger, alors Nadia Boulanger, aujourd'hui, on ne connaît plus son nom, mais elle a formé des générations de compositeurs, de musiciens, c'est-à-dire Quincy Jones, Daniel Barenboim, Vladimir Kosma, Leonard Bernstein, George Gershwin. Vous voyez, il est passé, il a été 7 ans l'élève de Nadia Boulanger, et il se dit, je vais faire une carrière de musicien classique. Sauf que, il n'est pas programmé. Donc, eh ben, il décide de donner des concerts. Et comme personne ne le connaît, bah, il va vivre d'abord en accompagnant des chanteurs dans les cinémas. C'est l'époque où il y a encore des numéros. Hein. Et il devient pianiste aux Trois Baudets. Et c'est là le déclic. C'est-à-dire qu'il rencontre Brassens, Ferret. Il commence à orchestrer pour eux. Finalement, il est sollicité par Henri Salvador, Maurice Chevalier. Et il va choisir le cinéma au moment de la nouvelle vague. Et c'est la rencontre, évidemment, avec Jacques Demy. Et hop,
heureusement,
c'est
histoire de rencontre dans la vie. Parce que s'il avait rencontré Tino Rossi, par exemple,
il aurait fait Schubert,
un autre chemin il aurait et fait Schubert. Ça n'aurait pas été la même carrière.
Voilà. Mais c'est quand même étonnant, comme vous le dites, c'est les rencontres qui font une carrière.
Michel Blanc aurait pu être pianiste aussi. Concertiste.
Ah non, hélas.
Comment ça, non, hélas?
Bah, si j'avais eu les moyens, je l'aurais été. Mais j'ai commencé trop tard. Je suis l'anti-Michel Legrand, parce que j'ai commencé le piano à 13 ans. Et c'est trop tard.
C'est trop tard pour devenir un grand pianiste. Mais vous touchez votre bille quand même.
Ça fait longtemps que je n'ai pas joué parce que je n'ai plus de piano à la maison. Il ne passait pas dans l'escalier.
Ah oui, c'est pour ça. Parce que vous allez me dire, mais les bronzés froids, ça a l'air
rapporté. Alors, je m'en suis séparé.
Vous avez un demi-queue ou un queue, parce que tous les pianos passent dans les escaliers.
Ah, non, pas
c'était effectivement un grand Steinway, un beau, très au-dessus de mes moyens personnels, financiers aussi un peu. Et voilà.
Mais
alors, ce qui m'a fait
pas,
plaisir, ouais. C'est que, vous savez, lâcher un piano que vous aimez, c'est très étrange. On a un rapport très étrange. Et j'ai été très heureux parce que quand je l'ai vendu, je me disais, il va finir chez un gros con sur la Côte d'Azur ou un mafieux russe.
Qui l'utilise pas, qui le pose juste
sur lequel on va poser des verres. Et en fait, il a été acheté par un conservatoire allemand.
Ah, donc c'est bien.
Il
forme des jeunes
il
pianistes.
Il a enfin de bons pianistes qui jouent dessus.
Mais ça vous manque pas de ne pas jouer ?
Si.
Ouais.
Mais bon.
Allez, les bronzés 4, un nouveau Steinway. Après avoir vu Docteur en salle mercredi, vous y réfléchirez à deux fois avant d'appeler SOS Médecin. Croyez-moi, Michel Blanc est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Les ressorts de la comédie sont multiples. Parmi eux, il en est un dont l'efficacité fait mouche à chaque fois, le quiproquo, par exemple, lorsque dans un quiz, le candidat ne comprend pas la question qu'on lui pose ou n'écoute pas la question. Je ne vous demande pas le chanteur, mais le titre de la chanson. C'est parti.
Ah oui, Michael Jackson.
CQFD. Bref, notre traditionnel quiz qui oppose l'invité à Eva Rock arrive. Eva se prépare et je vais arrêter de la charrier. C'est vrai que parfois je suis un peu con.
Ça pourrait te compter, con. Hein. T'as une belle gueule, mais t'as pas inventé le caoutchouc. Non,
doucement quand même.
Heures, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Mes amis, galoper dans la plaine du savoir à vos côtés chaque après-midi est toujours un honneur. Doublé aujourd'hui d'un bonheur puisqu'on reçoit Michel Blanc, adorable comme je l'imaginais. On passe vraiment un moment fabuleux, les chroniques sont bien, même la lumière dans le studio Coluche est différente.
C'est vrai que ça me fout, je suis pas peintre.
Bien, donc un super moment aussi pour Michel. Et on va crescendo puisque c'est l'heure fatidique du quiz. Michel Blanc, thème du quiz aujourd'hui, clin d'œil évidemment à votre film Docteur, puisque vous allez être opposé à Eva Rock sur un terrain médical. Ouais, c'est un vrai faux. Chaque bonne réponse, vous êtes hypochondriaque, paraît-il.
Oui, mais enfin, ça prépare à la mort, pas à la médecine.
C'est parti quand même. Eva Rock,
oui.
En Allemagne, la cour de Francfort a reconnu la gueule de bois comme étant officiellement une maladie, vrai ou faux?
Ah bah, j'ai très très envie de dire vrai.
Mais réfléchissez avant de donner une réponse.
Bah, je dis vrai.
Vous dites vrai quand même?
Oui, je dis vrai quand même.
Et comme quoi, c'est quand vous ne réfléchissez pas que vous donnez les meilleures réponses.
Ouais.
C'est vrai. Le 23 septembre dernier, en pleine fête de la bière, la cour a interdit la commercialisation d'une boisson prétendant lutter contre la gueule de bois, argumentant que n'étant pas un médicament, elle ne pouvait pas se vanter de guérir une maladie, donnant par le même coup à la gueule de bois le statut officiel en Allemagne de maladie.
Ils sont très forts.
On sait, Eva, vous passerez vos fêtes de fin d'année.
Exactement.
Michel Blanc, aux États-Unis, deux docteurs californiens ont mis au point un robot du nom de Steve Tooth, véritable simulateur d'un patient qui souffrirait des dents, pour entraîner les étudiants en orthodontie, vrai ou faux? Steve Tooth.
Ben, le nom me fait penser que c'est une connerie, mais il y a beaucoup de simulateurs, pas seulement pour les avions, pour les médecins aussi, donc c'est fort possible.
C'est fort possible, et moi j'aurais répondu vrai, parce que
oui,
en plus je suis sûr que ça existe. On me dit faux.
Ah bon ?
Par contre, il existe Patrick pour s'entraîner à faire un toucher rectal. C'est un robot représentant une paire de fesses reliées à un corps virtuel dans lequel l'étudiant peut introduire un doigt. Patrick interagit avec l'étudiant selon la qualité du toucher.
Bah, ils sont cons, à mon avis, ils auraient eu beaucoup de candidats.
Oui.
C'était effectivement l'autre option. On est aux États-Unis, ils sont plus prudes que nous, vous savez, Michel.
Mais ça rappelle quand même une scène du film. Ça rappelle.
Avec Artus. Avec un certain Artus.
On n'en dit pas plus.
On ne dévoile pas.
On ne dévoile pas. Eva Rock, Michel Blanc, vous répondez ensemble. Je vous présente Arthur Larsen, champion de tennis dans les années 50, finaliste même de Roland-Garros. Il a même gagné l'US Open. Et pourtant, les médecins lui avaient diagnostiqué une maladie très rare, laquelle ? Trois propositions. Gaucher, il avait la main paralysée, il a dû apprendre à jouer de la main droite. Bipolaire, il pensait avoir un aigle sur l'épaule. Ou trois, victime d'hyperballonnement, il avait une dérogation de retourner au vestiaire à chaque changement de côté.
Oh non, c'est des questions là, franchement.
C'est très pointu, Michel.
C'est plus que pointu. C'est pas moi. Le moins.
Le moins con, il faut toujours aller vers le moins con.
Le moins couillon des trois, d'apprendre à jouer de l'autre main.
Ah ouais. C'est vrai que c'est le plus malin.
Oui.
Eva.
Moi, je vais te dire la réponse 2, là, qui est complètement
bipolaire,
absurde.
Il pensait avoir un nez sur l'épaule.
Ouais.
Mais je vois pas en quoi ça gênerait. Vous-même, vous devez être assez dérangé pour pouvoir penser que c'est la bonne réponse.
Oui, mais moi, vous savez que je suis complètement folle.
Et pourtant, vous avez la bonne réponse. Alors, je ne connaissais pas cette histoire. Il pensait avoir un aigle sur l'épaule. Il lui parlait même pendant le match. Il était connu pour avoir toujours, en dehors des cours, une cigarette ou un verre à la main, ou les deux. À l'US Open, il avait même demandé de faire couvrir les statues d'aigle en marbre pour ne pas perturber le sien. Et oui, son aigle qu'il avait sur l'épaule.
Ça,
voilà.
ça fait partie des gens que je n'aimerais pas trop rencontrer.
Je pense qu'aujourd'hui...
Surtout sur un cours.
Eva Rock, en Inde, on est tellement sensibilisé aux médecines traditionnelles qu'il y a un ministre du yoga. Vrai ou faux ?
Oh, pourquoi pas, oui. Allez, un ministre du yoga. C'est une bonne idée.
Touchée par la grâce aujourd'hui.
C'est vrai ?
Ou tout simplement le hasard la favorise-t-elle ? Vrai, c'est le cas depuis 2014. Il est également ministre de l'Ayurveda, qui est une sorte de yoga pour l'esprit, ainsi qu'un ministre de l'homéopathie.
Ah bon ?
Oui.
Ce qui prouve que l'homéopathie, enfin bref.
Oui, voilà. Mais
ne doit pas être remboursée.
Dernière question qui va vous départager, c'est la question bonus. Elle vaut 4 points.
Je ne gagne jamais, Michel Blanc,
la touche a été inventée par le médecin personnel de Louis-Philippe Ier. Extrêmement actif, il trouvait que prendre des bains prenait trop de temps. Vrai ou faux ?
C'est vrai que ça prend trop de temps, j'en prends pas. Je prends que des douches. Donc je serais tenté de dire que c'était un homme intelligent. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? J'en sais foutre rien.
Vous avez toujours le bon raisonnement, Michel, mais jamais la bonne réponse. C'est faux ! En revanche, la douche a bien été inventée par un docteur, Dr Méry Delaboste, au XVIIIe siècle. Il était le médecin-chef de la prison de Rouen. Le taux de mortalité de l'établissement était tellement important à cause de l'hygiène qu'il a eu cette idée très économique et salutaire pour la santé des détenus, la douche, tout simplement. Voilà. C'est donc... À la surprise générale.
C'est la première fois depuis le début de l'année.
Eva Rock qui remporte. Et vous noterez que quand Eva Rock remporte un quiz, il n'y a pas de musique gay pour souligner la victoire.
C'est parce que
vous aviez en face de vous un médiocre candidat. Oh. Moi.
Non, pas du tout. Hein. D'ailleurs, vous avez appris à faire des gestes pour bien
représenter le monde. Ah bah oui, il faut que ça ait l'air vrai.
Le toucher rectal ?
Non,
parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Chacun sa spécialité, c'est Hakim ça.
Si vous êtes aussi optimiste que Chantal Goya lorsqu'elle appelle SOS Médecin.
Quel bonheur un docteur qui arrive à l'heure.
Mercredi prochain, allez voir Docteur, le nouveau film de Tristan Seguela avec Michel Blanc. Ça devrait vous soigner de l'optimisme.
Europe 1.
À suivre, si d'aventure vous vous baladez du côté de Brest et que vous voyez des bébés faire la sieste en plein air, n'appelez pas tout de suite les flics. Il se pourrait que ce soit une expérimentation scolaire, la crèche nordique, une pratique venue du Nord. François Coulon, notre correspondant dans l'Ouest, vous explique.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Un froid polaire souffle sur une France en grève. Réchauffez vos zygomatiques et vos neurones au bras zéro de notre bonne humeur.
Tu parles bien quand tu veux.
Merci Michel. Oui, Michel Blanc est notre invité d'honneur ce soir dans l'équipe est sauvage. 2 heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 et découvrir des pratiques parfois insolites. Ainsi, du côté de Brest, si jamais en passant près d'une école maternelle, vous apercevez des bébés à qui l'on fait faire la sieste dehors, n'appelez pas la police qui, de toute façon, en ce moment, a d'autres chats à fouetter.
Allô ? Non, ils sont occupés.
Comment ça, ils sont occupés ? Ils sont partis ?
Non, ils baisent.
Inutile donc. En plus, c'est pour le bien de ces petits bébés. Bonjour François Coulon.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une histoire vraiment à dormir debout, François, la sieste en extérieur pour les tout-petits et ça se passe chez vous.
Oui, oh. Dans une crèche, ça fait mal à entendre.
Oui.
Dans une crèche de Brest, qui est l'une des très rares en France, avoir adopté le concept de la sieste nordique. Ça consiste tout simplement à faire dormir les nourrissons dehors par tous les temps.
Oula.
Inutile d'appeler... Oui, ça fait peur à voir comme ça. Inutile d'appeler les services sociaux, il n'y a pas maltraitance.
Est-ce que vous en êtes sûr, François?
Alors écoutez, à ma connaissance, tous les bébés de 2 mois à 18 mois de la crèche Jean de la Fontaine qui font la sieste en extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, eh bien ces bébés se portent comme des charmes. Alors d'abord, quand même, on les couvre bien, hein, ils sont emmitouflés dans ce qui ressemble à des combinaisons de ski, et puis on les rentre quand même, exceptionnellement, en cas de tempête ou d'orage, ou lorsque la température descend en dessous de zéro, on en est très loin en ce moment. Oui, oui.
Non, mais ça fait ça. J'ai froid pour eux, en fait.
Ben oui, mais ça, c'est dans nos têtes. Là, actuellement, avec 8-10 degrés, ils ont plutôt chaud.
Et tout ça, pourquoi? Il y a des problèmes de surpopulation dans cette crèche de Brest. Le personnel a besoin d'espace supplémentaire. C'est quoi la justification?
Mais non, vous n'êtes pas sérieux, Mathieu. C'est juste une question de qualité de sommeil. Et les 11 salariés de la crèche, ils sont venus de façon très empirique. Hein. Quand un enfant avait du mal à s'endormir, eh bien, on lui faisait faire un petit tour en poussette à l'air libre. Et hop, quelques dizaines de mètres plus tard, il tombait dans les bras de Morphée, on l'a tous connu ça, et bien c'est en faisant des recherches que ses employés ont réalisé que ce stratagème n'avait rien de révolutionnaire. Ça fait plus d'un siècle que les Suédois, les Danois et les Finlandais sont adeptes du couchage extérieur pour les tout-petits.
Donc on a du recul là-dessus, ça fait vraiment du bien au bébé.
Écoutez, manifestement, d'après ce qui est observé sur place à Brest, les siestes sont sensiblement plus longues et le sommeil plus profond et de meilleure qualité que dans les dortoirs intérieurs. Elles peuvent durer 2-3 heures au lieu d'une heure et les enfants sont plus apaisés. Dormir dans le froid renforcerait de surcroît les défenses immunitaires, ça réduirait les risques de maladies. Voilà Mathieu, juste une image pour terminer, celle des jardins des crèches de Stockholm où il est habituel de contempler des rangées de landaux dans la neige. Et oui, sans que l'on déplore la moindre bronchite, bien au contraire. Est-ce que ça vous rassure ça, Mathieu ?
Ça ne me rassure pas tellement,
je vais
vous dire, François. Et si jamais, après votre chronique, des cons foutent leurs gosses sur le balcon et l'oublient, eh bien, ça sera votre faute.
Vous serez tenu pour
responsable, François Coulon. Voilà ce que je vous dis.
Ne vous écoute pas.
Merci beaucoup, François Coulon, pour cette découverte.
À bientôt. Europe 1.
Il a fait, ma foi, un joli brin de carrière, joué dans quelques petits films qui ont rencontré un certain succès, mais on imagine aisément son émotion aujourd'hui d'être avec nous dans L'Équipe est sauvage. Oui, Michel Blanc, le rêve continue pour vous, puisqu'une deuxième heure vous attend. Deux nouveaux journalistes vont nous rejoindre pour évoquer les secrets d'une enseigne que les Français adorent, Décathlon. On vous dira aussi si acheter un sapin de Noël peut être écolo ou pas. Il y aura aussi Michel, la chronique des Baroques, qui nous guide dans la jungle des programmes télé, sans oublier la recette de dernière minute qui vous sauve la mise en rentrant chez vous. Il y aura aussi... Oui, Michel ?
Qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça ? Plus jamais tu m'emmènes au restaurant, ni au cinéma. Tu me caches, t'as honte de moi. Dehors, c'est le printemps, tu m'as même pas emmené voir les bourgeons.
Mais Michel, c'est l'hiver !
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Quand les premiers frimas de l'hiver se pointent, vous êtes du genre à mettre un vinyle de Sinatra et à vous glisser sous un gros plaid avec un bon grog.
Oui !
C'est fou. On est les mêmes, vous et moi.
C'est tellement
oui,
bien.
Dans l'équipe est sauvage, on adore la période des fêtes. Et pas seulement parce que la convention des journalistes nous garantit 2 semaines de vacances, mais aussi parce que Noël, c'est le moment où l'on pardonne à ceux qui nous ont offensés. C'est pourquoi, Eva, je vous demande officiellement pardon pour hier.
Oula.
Je ne sais pas par quelle malheureuse association d'idées. Enfin bref, pardon.
On perdait combien de kilos à la fin de chaque concert ?
Mais surtout, je me suis rendu compte que j'ai pas faim. Donc, je mange pas avant les concerts pour pouvoir être en forme. Et après le concert, j'ai tellement soufflé, tellement été fatigué que j'ai même plus faim. Je peux même plus rien manger.
C'est le régime idéal, Eva.
C'est moche ce que vous dites.
Ah non, je vous regarde, je pense à moi, je ne me permettrai pas. Mais vous me prenez pour un goujat. Mais pas du tout. Mais enfin, Eva.
À la boulette.
Vous êtes fine comme un roseau.
Ah oui, j'ai fait la boulette.
Votre honneur.
Oui, oui. J'ai sorti les rames, mais oui, c'était trop tard. Heureusement que c'est bientôt Noël. J'ai eu chaud, moi.
Europe 1,
16h-18h, L'Équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez L'Équipe est sauvage, 2 heures parsemées de rire, certes, mais aussi de flaques de sang. Car chaque après-midi, les meilleurs journalistes de la station s'affrontent à coups de chronique au service de votre culture G. Pour avoir le privilège de se coiffer en fin d'émission de notre prestigieuse couronne de chroniqueurs du jour, ils sont prêts aux pires bassesses, piratage de boîte mail, empoisonnement au Forlax, voire même pichenette dans l'escalier.
J'espère qu'il est mort. Hein.
Tout ça n'est pas joli, joli, doit se dire notre invité d'honneur aujourd'hui, dont la voix comptera triple tout à l'heure. Michel Blanc nous accompagne pour la sortie la semaine prochaine de Docteur de Tristan Seguela. On continue d'en parler, Michel. Le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. À ma gauche, une fan, Michel, puisqu'en vous apercevant dans le couloir tout à l'heure, elle s'est écriée.
Salut,
cette petite chose est
bronzée. Bonjour, Anne. Bonjour à tous.
Petit son pour vous mettre à l'aise d'emblée. Anne, vous êtes la conscience verte d'Europe 1 et aujourd'hui, vous vous attaquez à la question qui fâche. Quand on aime la magie de Noël, mais qu'on est aussi respectueux de l'environnement, comment on fait pour le sapin ?
Alors, il y a des tas de questions qui se posent autour du sapin de Noël. Faut-il l'acheter naturel, artificiel,
made
in France ?
Je sens que Michel Blanc se pose.
Autre question, faut-il l'acheter avec les racines ou pas ? Je vous explique tout ça.
À ses côtés, Michel Blanc, un journaliste brillant avec un titre qui claque « Chef du service économique d'Europe 1 ». Son devoir d'impartialité lui interdit évidemment de nous donner son avis sur la mobilisation sociale actuelle, mais rassurez-vous, Michel Blanc, vous aurez tout loisir d'échanger avec lui hors antenne à l'issue de l'émission.
T'es sûr que les socialistes vont monter l'affaire en épingle ?
Oui.
Encore deux ou trois autres conneries comme ça, et tu verras, le communisme est cuit.
C'est possible, Michel. En attendant, Emmanuel Duteil, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Michel Blanc.
Ce soir, vous nous parlez d'une marque qui fait l'unanimité, c'est tout simplement la marque préférée des Français.
Ouais, alors j'avais prévu de vous la faire découvrir, mais vu que vous l'avez déjà donné le début de ma chronique, va être complètement foutu.
Passez-moi le fil la prochaine fois.
Je vais vous raconter la saga. Décathlon. Pourquoi Décathlon est la marque préférée des Français dans différents sondages ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Est-ce que ça fonctionne encore, Décathlon ?
Voilà pour le programme de cette deuxième heure. Qui sera désigné chroniqueur du jour ? Nous le saurons peu avant 18h. Pour l'heure, je me tourne vers notre invité que vous retrouverez mercredi prochain à l'affiche de Docteur, une comédie de Tristan Seguela. J'ai dit en début d'émission qu'il serait ridicule de le présenter et je ne le ferai pas. Je vous laisserai, chers auditeurs, ce soin. Qui est pour vous Michel Blanc ? On vous a posé la question. Voici Michel, non pas un classique micro-trottoir, toujours monté de sorte à flatter l'ego de l'invité. Voici notre micro trop trash. Même principe, sauf qu'on a tout laissé.
Michel Blanc ? Ah oui, Michel Blanc, bien sûr, un acteur absolument... Non. Ah non, Michel Blanc, le politique.
Bah, il a joué dans Les Bronzés font du ski, etc., etc. Et alors ?
Il fait partie de notre vie, voilà, Michel Blanc.
Il a un joli regard. Je pense que c'est quelqu'un de réservé.
Tous les rôles dans lesquels il a joué, et c'est toujours le pauvre garçon, quoi. Hein ? Ben, on a presque pitié de lui, alors qu'on sait qu'il n'est pas du tout comme ça en tant qu'homme. Mais dans ses rôles, il excelle.
J'avais vu un film, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec Mélanie Laurent ou... Et il meurt à la fin, d'ailleurs, le pauvre.
Jean-Claude Duss. Je pense qu'il est assez pudique, c'est pas quelqu'un qui se montre. Il fait son travail, mais en toute discrétion, je trouve, c'est bien.
Et en plus, il aime le thé. Vous savez pas qu'il aime le thé, Michel Blanc ? Très drôle, truculent.
Chaque fois qu'il y a un film qui se joue, dans lequel il y a Michel Blanc, là, c'est au moins quelque chose de détendant.
De détendant. Oui,
à minima, j'ai envie de dire. Pudique, réservé, ça c'est vrai que c'est un trait de caractère qu'on vous prête souvent. Vous vous définiriez comme ça ?
Oui, parce que je parle très volontiers. Ah tiens, il y a quelqu'un qui justement est d'accord, qui vous appelle pour dire à quel point je suis pudique et réservé.
C'est Gérard Jugnot.
Non, c'est ma mère. C'est ma mère. Ben, bon, vous avez raccroché au nez de ma mère.
Oh mon Dieu.
C'est pas sympa du tout. Oui, non, je ne fais pas partie des acteurs qui aiment étaler leur compagne, leur vie privée, leur machin, parce que je trouve que ça, les gens s'en fichent complètement. Hein. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'on fait quand on tourne, c'est ce qu'on leur propose professionnellement. Voilà. Puis je ne trouve pas qu'elle soit extrêmement passionnante, ma vie privée. Elle l'est pour moi, mais pour les autres...
Certains n'ont pas de vie privée passionnante, ils l'affichent quand même, hein, ça,
oui,
ça les gêne pas.
Hein.
Ça, il n'y a pas de problème. Vous serez donc à l'affiche mercredi prochain de Docteur, un film de Tristan Seguela. Ce film démarre par un avertissement. Ce film a beau être inspiré de faits réels, les auteurs tiennent à préciser qu'ils gardent toute confiance dans le corps médical. C'est vrai qu'il vaut mieux petit avertissement, parce que moi qui suis hypochondriaque, par exemple...
Vous aussi.
Ah oui, moi aussi. Oui,
mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Finalement, à chaque fois
on
que je fais...
Plus.
Oui. On me dit, ah mais moi aussi, ah mais moi, Tristan est un...
Aussi, le réalisateur du film.
Mais lui, il est en catégorie professionnelle, quoi. Il joue dans le haut du tableau, hein. Il est pire que moi. Ce qui n'est pas peu dire.
Ce qui n'est pas peu dire. Vous avez déjà croisé un docteur dont vous avez mis en doute les diplômes. Vous avez dit, lui, est-ce qu'il est vraiment docteur ?
Non. Moi, j'ai une confiance absolue. Voilà, j'ai des médecins en qui j'ai une confiance absolue.
Mais est-ce que votre hypochondrie vous a un peu empêché parfois de jouer certaines scènes, ou en tout cas d'évoquer certains sujets de maladie ?
Non, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Alors, quand je suis sur un plateau, Michel Blanc n'est pas là. Il y a le personnage. Mm-hmm. Après, je rentre dans la loge, je peux très bien avoir une crise d'angoisse et me regarder parce que j'ai une rougeur. Mais sur le plateau, ça ne me gêne pas du tout.
Il sera mercredi à l'affiche du nouveau film de Tristan Seguela, lui aussi hypochondriaque, on le découvre, où il incarne un docteur en état, dirons-nous, de grosse fatigue. Michel Blanc est sur Europe 1 ce soir.
Europe 1.
À suivre, peut-on vraiment concilier amour de Noël et respect de l'environnement? Le sapin peut-il être écolo? Anne Le Gall, notre spécialiste, vous répond. Et elle vous répond au pied levé, puisque oui, je tiens à vous en informer, elle a dû remplacer à la dernière minute, c'est vrai, sa consoeur Ève Roger, victime d'un léger coup de moins bien. Disons qu'elle est à peu près dans le même état que Michel du temps où il traînait trop avec Gérard Lanvin. On va quand même l'appeler prendre de ses nouvelles, ça va Ève?
T'as fermé la porte parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure.
Ah oui.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Oui, bien sûr, reposez-vous.
Sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Décontraction zygomatique et gainage du cerveau. L'équipée sauvage bat son plein. Vous désignez comme chaque soir le meilleur journaliste d'Europe 1 sous l'égide d'un invité que vous aurez plaisir à retrouver mercredi prochain en salle dans Docteur, film de Tristan Seguela. Michel Blanc nous accompagne. Et Michel Blanc, c'est une question que je me suis toujours posée, que peut-être beaucoup d'auditeurs se posent. On présente souvent la bande du Splendide comme un groupe homogène. Mais au fait, dans cette bande, de qui êtes-vous le plus proche? Surtout avec le temps, il y a bien des affinités
attendez,
qui se
vous
créent.
Vous voulez me fâcher avec les autres?
Non, mais vous avez peut-être quelqu'un qui est votre meilleur ami ou un pote que vous voyez plus souvent, avec qui vous faites plus souvent des dîners.
Je vois très souvent. Alors, je l'ai vu, il est passé dans un studio pendant que je faisais l'émission avant-hier. C'est Gérard Jugnot.
Vous êtes proche.
Et Josiane, ouais. Oui, aussi. On se voit. On a des carrières, heureusement, qui continuent. Donc, on n'est pas forcément libre tout le temps au même moment. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas ami de l'ermite, de Marianne, tout ça. Mais il faut qu'il y ait une occasion.
Pour vous
et
voir.
Puis, comme mon camarade Clavier vit en Belgique maintenant, j'étais allé le voir à Londres quand même. J'ai fait des efforts.
Voilà. Il est toujours dans d'autres pays.
Mais il m'a brexité.
Voilà. Une question qu'on se pose aussi entre amis. On fait tous, quasiment en France, dans tous les groupes d'amis, on fait une soirée et les bronzés font du ski chaque année.
Ouais.
Et les bronzés eux-mêmes font pas de soirée bronzés font du ski.
Grâce à Dieu, non. Et le jour où on en fera une, ce sera dans la maison de retraite.
Ça fera une belle scène de film. Les bronzés regardant les bronzés dans une maison de retraite. Michel Blanc continue d'évoquer...
C'est complètement con, je comprends pas ce qu'il est fait rire.
On continue d'évoquer votre carrière et ce nouveau film Docteur en salle mercredi prochain. Mais la compétition continue, elle doit continuer. Car nous vivons dans un monde compétitif. Profit, rentabilité, compétitivité, voilà les mots dont on nous matraque à longueur de journée. À force, on est tous contaminés, on devient même agressifs et butés. Tous sauf Anne Le Gall. Vous aviez été élu, Michel Blanc, lors d'un sketch Champion de France de gentillesse 1983.
C'est vrai.
Je vous présente la championne de gentillesse 2019. Une gentillesse qui parfois lui porte préjudice.
Quand je pense à tous les mecs que je me suis tapé uniquement pour pas casser l'ambiance.
Oui, on les salue au passage, Anne Le Gall, et on embrasse votre mari actuel.
C'est n'importe quoi.
Noël approche et une question se pose pour tous ceux qui, comme vous, ont une fibre écolo. D'où viennent tous ces sapins et peut-on acheter un sapin sans faire bobo à la planète?
Voilà, la question se pose parce que pour 7 Français sur 10, le sapin, c'est l'accessoire essentiel. D'ailleurs, d'ici dimanche, il y a la moitié des adeptes de cette tradition qui auront acheté le sapin, qui l'auront décoré. Et d'où viennent d'ailleurs ces arbres coupés d'1,50 m qu'on retrouve à la même époque tous les ans dans les magasins? Ils viennent d'où? Alors, j'ai posé la question à Adèle, Anna et Joséphine qui ont entre 9 et 11 ans. Et pour eux, les sapins, tout simplement, viennent des forêts.
Dans toutes les forêts, enfin, ils sont coupés. La plupart du temps, c'est quand ils sont de plus en plus vieux. Du coup, juste pour fêter une fête, nous, on coupe des arbres.
Est-ce qu'on peut les replanter?
Impossible.
Parce que on n'a pas coupé à la base, pas aux racines.
Nous, on a un sapin artificiel. C'est bien aussi, comme ça fait pas couper d'arbres.
Alors en réalité, ils viennent pas des forêts, les sapins, ils viennent de plantations qu'on trouve en général dans le Morvan essentiellement ou en Bretagne. Voilà, ils sont cultivés.
Ah mais donc
cultivés.
Ça, beaucoup de sapins sont français.
Alors oui, 70% du marché, c'est du sapin français. C'est déjà une bonne nouvelle. On les coupe quand ils ont entre 5 et 10 ans. On leur met des guirlandes pendant 3 semaines, voilà. Et puis après, c'est vrai, on les coupe et on les jette. Alors, il y a de plus en plus de sapins qui sont vendus en pot avec leurs racines. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est une vente sur 10 aujourd'hui.
Et ça, c'est bien.
C'est pas mal. Le but, donc, c'est de les replanter après dans un jardin quand on l'a.
Oui,
sauf que c'est pas sûr de fonctionner à 100%, parce qu'en général, quand il y a eu 3 semaines dans un salon surchauffé, il y a un choc climatique pour le sapin, il n'est pas sûr de reprendre ensuite.
Il faut... y a aussi un choc pour la concierge quand vous le faites dans le... quand vous le plantez dans l'escalier. Mais enfin, bon,
c'est du vécu.
Oui, il a vendu le Steinway, mais par contre, il l'a remplacé par un sapin. La concierge est ravie. Il faut faire attention si vous plantez le sapin. Moi, je l'ai fait. Il grandit
ah
beaucoup.
Oui,
hein.
Bah...
Donc, il faut faire très attention quand même. Il faut voir, il faut prévoir un emplacement.
On peut le réutiliser d'une année sur l'autre, mais il y a une limite quand même. Alors, la question, c'est quid du sapin artificiel, finalement?
Très bonne question, Anne Le Gall.
Parce que
j'ai
parce
franchi
que
le pas cette
ça.
Année.
C'est une belle
j'ai
saloperie, ça.
Ah, c'est une saloperie?
Alors, vous,
ah non,
vous...
c'est moche.
Alors,
le mien est d'abord, c'est moche. Ensuite, je suppose que c'est du plastique.
Alors, c'est du plastique.
Ah, je vous invite à la maison, les amis. C'est un sapin artificiel du plus bel effet.
Alors, est-ce écolo? C'est la question. Eh bien, c'est écolo, mais... au bout de 20 ans d'utilisation.
Et moi, je vois sur le long terme, vous voyez.
Voilà, mais il faudra le garder 20 ans, votre sapin. Et dans ce cas-là, effectivement, le sapin aura remboursé sa dette carbone à la planète, si on veut, parce qu'en fait, il faut compter...
Ça, ma dette carbone.
Il faut compter toutes les matières qui ont été utilisées pour faire le plastique. Souvent, ils viennent d'Asie, donc il faut aussi compter le transport. Donc, en dessous de 20 ans, vaut mieux un sapin naturel parce qu'au moins, on le coupe, certes, mais quand il pousse, il capte du carbone.
Il y a aussi le porte-manteau qui est très bien, hein, une fois décoré. Et vous pouvez le garder, vous le recyclez pour accrocher des manteaux après pendant toute l'année.
D'année en année. C'était le petit conseil futé de Michel Blanc. Voilà. Merci Anne Le Gall. Votre chronique aura-t-elle fait vibrer la fibre écolo de Michel Blanc? Moi, en tout cas, j'estime qu'il faut respecter l'environnement. Mais attention quand même, Noël, c'est sacré. Faut pas trop nous emmerder non plus.
Ne sois pas vulgaire, Monique, s'il te plaît.
Mathieu, moi c'est Mathieu. Michel Blanc est notre invité. Europe 1. À suivre, selon une étude, c'est votre enseigne préférée, Décathlon. Comment la chaîne de magasins de sport a réussi à tirer son épingle du jeu? Pourquoi cette idée a priori étrange nous tombe parfois dessus comme ça le samedi? Tiens, si on allait à Décathlon, pour en parler, notre ultime concurrent du jour. Emmanuel Duteil, un journaliste grand par le talent, un peu moins par la taille, ce qui me permet de le vanner sans risque.
Je sais pas si tu me retiens de te casser la gueule, tiens.
La trouille, non?
Ouais, ça doit être ça.
Décathlon, les secrets d'un succès français, c'est dans L'Équipe est sauvage, pardon.
L'Équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez L'Équipe est sauvage, l'émission d'un monde qui change et qui change vite, trop vite à mon goût. Oui, dans ma minute vieux con aujourd'hui, j'aimerais saluer un petit personnage que bientôt les jeunes ne connaîtront plus et sans qui pourtant le cinéma ne sera plus aussi magique. Ce petit ludion malicieux nommé Jean Mineur qui glissait sur une bobine de film, une pioche à la main, ce qui n'a jamais eu d'ailleurs aucun sens, un jour ou l'autre il disparaîtra et nos souvenirs avec, car aujourd'hui, pour de plus en plus de jeunes, le cinéma c'est ça. Vous êtes très Netflix, vous Michel Blanc, vous avez l'abonnement?
Oui.
Ah mais vous le dites de manière un peu honteuse, pourquoi?
Non.
Il y a des belles choses sur Netflix aussi.
Non, je suis accro. Mais que je ne vais pas le nier. Mais la seule chose que je déplore, ce sont des films qui sont faits pour ne pas être projetés en salle. C'est un petit
question.
Peu embêtant. Pour être tout à fait honnête, je vais de moins en moins en salle, parce que si c'est pour être assis entre quelqu'un qui se goinfre de pop-corn et un autre qui est sur Instagram, ça me saoule, donc je préfère regarder à la maison.
Tranquillement, très honnêtement. Sur votre écran géant.
Mais quand même, une comédie avec 500 personnes dans la salle, dans une salle,
on communie dans
c'est quand même autre chose.
Et puis aussi des très beaux films qui sont donc on imaginerait très bien au cinéma. Moi, je suis en train de regarder Irishman, le dernier
oui.
Scorsese.
Bah oui, j'imagine. Oui.
Ben, ça, on se dit, c'est quand même incroyable. Vu les moyens engagés là-dedans, on aimerait le voir sur un grand écran et on ne peut pas. Enfin bon, au moins Netflix produit des belles choses.
Télé.
Alors voilà, il faut acheter une grande télé. Il faudrait aussi qu'il y ait plus de budget européen pour ça. Voilà. Selon une étude très sérieuse de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir justement ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner, la chronique indispensable des Varocs.
Ah, j'aime bien quand vous dites indispensable. Alors avant d'évoquer...
Oui, c'est le vendredi. Je m'adoucis un peu le vendredi.
Avant d'évoquer mon conseil pour ce week-end, je vous rappelle que quand même l'événement médiatique, c'est le Téléthon qui est parrainé par notre ami Jean-Paul Rouve. Alors je continue à penser que l'émission, elle est conçue comme un marathon de 30 heures. C'est pas une bonne formule, mais enfin, voilà. On passe outre cette ineptie télévisuelle. Il n'empêche, un seul numéro à retenir pour vos dons, c'est le 36-37 ou le site du Téléthon. Mais ce dont je voulais vous parler et vous conseiller, c'est samedi à 22h25 sur France 5. Un joli portrait. Écoutez cet extrait. Il y a deux hommes de talent qui se cachent dans une seule voix.
Oh, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire.
Évidemment, mais c'est trop facile, c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache, je veux en faire profiter.
Alors,
les autres.
Est-ce que vous avez reconnu la voix?
Il y a deux voix qui sont...
Non, il y a une seule voix qui récite
un texte,
oui, d'un homme de talent.
Oui.
Alors,
oui,
d'après
vous, Édouard Baird, quelque part?
Non, alors c'est François Morel, en fait, dont vous venez d'entendre la voix et qui reprend du Raymond DeVos.
Ah oui.
Qui est les textes Edouard qui reprend.
Voilà,
ouais, ça donne un
merci,
peu Edouard
j'ai
Baird.
La bonne
c'est
réponse,
c'est vrai,
Eva.
C'est vrai. Et c'est François Morel, en fait, qui est l'objet du documentaire dont je voulais vous parler. Un comédien qui se rêvait musicien, figurez-vous, qui chante très bien, par ailleurs, vous le verrez dans le documentaire, mais qui s'est révélé sur les scènes de théâtre et à la télé, notamment avec Les Deschiens, dont il est évidemment question dans ce film. Alors, c'est un film qui est un peu foutraque dans sa construction, mais qui montre quand même quelques facettes de François Morel. Moi, j'ai trouvé que c'était un être absolument poétique dans ce film, très émouvant, attentif aux autres, perfectionniste. C'est un portrait qui est flatteur, mais qui est quand même rythmé par un côté surréaliste et puis la dérision de François Morel et de ses amis qui interviennent. Alors attention, si vous espérez tout savoir sur le comédien, vous passez parce que vous risquez d'être frustré. C'est pas un homme qui est du genre à parler de lui et à raconter sa vie, mais c'est un très beau documentaire qui s'appelle François Morel. Voilà, c'est tout. Sur France 5, samedi soir à 22h25.
François Morel que j'irai voir en spectacle bientôt d'ailleurs. J'ai
c'est
pris
vrai
les places.
Oh, vous
et
avez
je vais pas
chance.
Souvent voir des spectacles.
Ah,
et
bah oui,
et oui, et oui. Je l'embrasse d'avance. S'il peut me mettre la place plutôt en carré or, bien avec de la place pour les jambes parce que je suis très grand. Merci d'avance, François. Voilà, Michel Blanc, c'était 17 minutes de gagner le Conseil Télé des Varocs.
Europe 1.
À suivre, c'est le premier mot qui vient à l'esprit lorsque notre regard se pose sur Emmanuel Dutheil.
Les muscles. Ils sont à l'homme ce que les pistons sont à l'automobile. Des muscles bien huilés sont une formidable source de puissance.
Oui, Emmanuel Dutheil est féru de sport et pour se fournir, il choisit Décathlon. Et il n'est pas le seul, selon une étude, c'est l'enseigne préférée des Français. Pourquoi ? Manu fait 3 séries de squats et il vous explique.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
4 journalistes en lutte pour une couronne, le suspense et la violence d'un film de Tarantino, l'allégresse et les gags d'un film de Jean-Marie Poiré. Bienvenue dans l'équipe est sauvage, 2 heures d'une compétition sans pitié entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Compétition sans pitié mais avec des règles, comme nous le confirmera notre invité arbitre ce soir, Michel Blanc, qui chapeaute un peu nos chroniqueurs.
Tu fais gaffe au coubin, j'ai pas ma coquille. Quand tu seras en compète, tu diras pas au type en face, j'ai pas ma coquille. Moi ouais, mais j'ai pas l'intention d'aller jusqu'en compète. T'en sais rien mon pote, des fois ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Tiens regarde, la preuve, en même pas 2 ans.
Pour lui, c'est allé beaucoup plus vite qu'il ne le croyait. Hélas, dans le mauvais sens du classement, Emmanuel Dutheil, vous avez beau être chef du service éco, vous êtes toujours dixième. Vous êtes dixième, vous n'êtes pas dernier.
Ouais, enfin,
vous êtes dixième
bon,
sur 15.
Participation, presque.
Heureusement, vous avez décidé de vous entraîner sérieusement, vous êtes passé chez Décathlon.
Oui, effectivement. Pourquoi je vous parle de Décathlon aujourd'hui? Puisque 2 classements viennent de sortir et place Décathlon soit entreprise préférée des Français. C'était par exemple le cas du classement fait par le JDD et le cabinet Height Advisory qui est sorti il y a une dizaine de jours. Et enseigne préférée des Français. Là, c'est fait par le cabinet OCNC. Alors, pourquoi Décathlon est comme ça parmi les meilleures entreprises de France? Déjà parce que c'est une entreprise qui est perçue comme proche de ses clients. Ils sont vus comme une entreprise de proximité. Tout à l'heure, dans votre teasing, Mathieu, vous disiez quelqu'un qui n'a pas eu l'idée un samedi d'aller se balader chez Décathlon, et bien c'est un des points principaux, au même titre qu'une entreprise comme la Fnac. Il y a quelques années, oui, vous alliez à la Fnac, vous aviez plein de gens à lire les BD comme ça, assis partir. Bah, Décathlon est vu dans cet état d'esprit. C'est aussi la compétence des équipes. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour être vendeur chez Décathlon, il faut pratiquer le sport dans lequel vous êtes vendeur. Donc par exemple, au tennis, le vendeur est obligatoirement soit un passionné de tennis, soit un licencié de tennis. Pourquoi vous faites cette
Non, mais je fais ça parce que j'ai pas envie de faire de la pub pour Décathlon, mais c'est vrai que je suis allé acheter du matériel de randonnée chez Décathlon et j'étais complètement surpris, en bien évidemment, de tomber sur quelqu'un qui connaît tout de la montagne
parce
et qui nous explique.
C'est
tout.
Obligatoire dans le recrutement, ils doivent être des passionnés de leur sport et bien souvent avoir même une licence. C'est aussi une entreprise qui est assez étonnante en termes de management, c'est très décentralisé, grosso modo, c'est au niveau de chaque magasin que ça se passe, ce qui part du principe qu'on n'achète pas la même chose à Strasbourg qu'à Lille. Oui Mathieu.
Mais la force aussi, c'est les produits, notamment les tentes là. Les tentes, hop, on les jette, clac.
Je savais pas que vous étiez passionné, je l'ai pas fait exprès pour avoir votre point quand
même. Non,
j'ai
vrai,
vraiment l'impression.
Mais, non, je trouve que c'est bien foutu. Et je m'étonne même, je vous dis, je m'étonne que ces tentes Quechua
fonctionnent.
Non, pas du tout, qu'elles ne soient pas vendues dans le monde entier et qu'elles n'est pas.
Elles sont vendues dans le monde entier. Vous avez Décathlon partout dans le monde entier.
Ben, non, mais apparemment dans d'autres pays, il y a encore des tentes à l'ancienne avec des piquets tout
mais où
pour
est
moi, présent
Décathlon, vous pouvez trouver une tombe Quechua. Mais ce qui est vachement bien dans ce que vous dites, c'est qu'ils ont réussi à installer un modèle à côté de Nike, à côté d'Adidas. Jusque-là, pas grand monde n'y était arrivé. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout honte d'avoir des produits Décathlon pour aller, par exemple, on parle des bronzés fonds du ski. La marque de ski s'appelle Vezze chez Décathlon. C'est très bien. Vous voyez ça sur tout le monde au ski. C'est vrai également pour les produits pour les sports nautiques comme Tribord, mais on pourrait citer toutes ces marques. Il faut voir qu'ils ont 80 marques à eux pour des sports différents. Ça va du hockey sur gazon au kayak. Et c'est vraiment cette innovation, finalement, un petit peu sur le modèle d'un IKEA, qui fait aussi que l'entreprise fonctionne.
Et ça fonctionne bien encore Decathlon aujourd'hui ? Alors, ça marche toujours aussi fort ?
L'année dernière, ils ont eu un petit trou d'air parce qu'ils avaient essayé de réorganiser les rayons. Enfin bon, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais oui, ça marche encore très bien. De toute façon, c'est simple. Hein, c'est quasiment l'un des seuls distributeurs qui résiste à Amazon. Et rien que pour ça, il faut vraiment être très très fort. Ils sont de plus en plus forts aussi sur le numérique. Ils ont par exemple acheté il n'y a pas longtemps une application qui vend des produits pour les cyclistes assez haut de gamme. Donc ils se renforcent aussi là-dessus. Puis comme je vous disais, ils sont présents partout dans le monde. Ils viennent de revenir aux États-Unis. Ça marche pas mal. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes allé à Moscou récemment. Mais la première
chose.
Non, 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 parce que enfin, l'avion était en retard, tout ça, donc je suis resté à Paris.
Oui, mais c'est
je
dommage.
Suis allé
parce
manger
c'est...
russe quand même.
Oui, mais c'est très joli, Moscou.
Je sais.
Et l'une des premières choses que vous voyez en sortant de l'aéroport, c'est un Décathlon.
C'est un
Merlin,
flic.
Un Décathlon. Mais une fois que vous êtes dans le taxi, quoi que
vous avez passé le flic derrière.
Et vous avez tellement, je pense qu'il y a tellement de circulation à la sortie de l'aéroport de Moscou. Enfin, bon, tout ça pour vous dire que vous voyez un Décathlon à la sortie, c'est pour prouver l'internationalisation et on verra s'ils seront être aussi aimés à l'étranger.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Eva, vous vouliez ajouter quelque chose ? Pas de conneries.
Non, 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 un jour je vous raconterai ce que c'est de travailler chez Decathlon.
Vous avez travaillé chez Decathlon ?
Mais oui.
Et vous n'avez pas aimé ?
Ah si, j'ai adoré. J'ai adoré.
Oui, mais pour d'autres raisons.
Non, non.
Merci beaucoup. Alors, attention, Secret Star. Je me permets, Michel, je vais avouer quelque chose. On a l'image de vous comme quelqu'un de pas très sportif à l'époque de la scène du judo dans Les Bronzés font du ski, dans Les Bronzés tout court.
C'est judo, fini. Hein, karaté.
C'est fini cette époque du karaté où vous étiez pas très fort. Je vous croise de temps à autre dans une salle de sport. Monsieur Michel Blanc fait beaucoup de sport.
Pas récemment à cause du film, mais ça se voit.
Depuis quelque temps, vous venez plus.
Je fais beaucoup de kilos. En ce moment, et j'espère refaire du sport à partir du 12.
Non, mais il y a eu un changement dans votre vie de ce côté-là. À un moment, vous avez décidé de vous mettre au sport. Ah, vous avez toujours fait du sport ?
Oui, alors j'ai fait chronologiquement. Du tennis. Mal. J'ai une faiblesse dans l'épaule droite maintenant à force de faire de très mauvais services. J'ai fait de l'équitation. J'ai une petite cicatrice, là, c'est un coup de tête de cheval. D'ailleurs, il m'est arrivé de franchir un obstacle sans le cheval.
Performance.
Mais j'ai quand même mon... À l'époque, c'était le premier degré d'équitation.
Ah ouais.
Oui, monsieur. Non, mais j'ai l'air con comme ça. Mais... J'ai fait du karaté vraiment avec l'ermite qui m'a embarqué là-dedans. Ma ceinture était très raisonnable. Hein. C'est orange ou
jaune,
enfin, oui, orange. Et puis après, je me suis mis à la salle parce que
voilà. C'est plus simple.
Bah oui, parce que le cheval rentrait pas à la maison.
À côté du piano.
Steinway, la concierge n'était pas.
Mais les athlètes de temps en temps, mais.
Merci en tout cas, Emmanuel Dutheil. Votre chronique aura-t-elle convaincu Michel Blanc ? La réponse ne va plus tarder.
Europe 1.
À suivre, pour une fois que vous étiez mis en télétravail, vous auriez pu penser à préparer un bon petit plat pour ce soir. Mais je vous connais, mes feignasses, vous n'en avez rien fait. Heureusement, il y a Delis in Extremis, votre recette dernière minute. Alors évidemment, avec Michel Blanc, la tentation était forte. Mais la dernière fois que nous avions tenté de faire la recette de la fougne, recette culte des Bronzés font du ski, ça s'était mal passé, un de nos journalistes ayant bêtement ripé au moment de prononcer le nom du plat.
La fougne.
Donc là, on va pas rééditer, hein, pas avoir d'ennui, on veut que l'émission reste familiale. Olivier Pouls, notre cordon bleu, a décidé de se rabattre sur un plat tout aussi bourratif, mais moins sujet au lapsus, l'aligot.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité qui nous entraîne dans son univers souvent passionnant comme le trompettiste Ibrahim Malouf. À l'antenne, mais aussi hors antenne, pendant les coupures pub, on a beaucoup échangé. C'était extrêmement intéressant, même si évidemment j'étais pour ma part assez préoccupé, puisqu'hier, entre 16h et 18h, c'était le seul créneau que j'avais trouvé avec FedEx pour la livraison de mon sapin de Noël.
Et là, quand t'es en concert avec cet album, tu en fais combien de titres de l'album généralement ?
Presque tout.
Presque tout.
Ah ouais, il y en a peut-être une ou deux qui sautent, mais sinon, c'est presque tout.
Ah, c'est vachement. Et tu remets la voix d'Obama ou celle d'Aliende ou
En concert, non.
Non.
Est-ce qu'on a des nouvelles de mon sapin ?
Aujourd'hui, Michel Blanc, c'est bon, j'ai reçu mon sapin, je suis tout entier avec vous. On parle de ce film à l'affiche mercredi prochain, Docteur, comédie très réussie, on le disait, de Tristan Seguela. Ça a même plu à Eva, qui est très difficile sur les comédiens.
Ben oui, c'est vrai que je suis un peu difficile, mais là, j'avoue, j'ai vraiment pris 1h30 de plaisir.
Les situations, les dialogues, tout fonctionne bien. En même temps, on voit mal Michel Blanc, le roi des dialogues, accepter un film qui pêche de ce côté-là.
C'est pas moi qui les ai écrits. Non, bien sûr,
non,
rien.
Vous avez cautionné. Non, mais si vous avez choisi le film.
Ah, je les ai aimés. Ah, oui,
vous
c'est
les
sûr.
Avez aimés. Et j'ai envie de revenir un peu plus loin. J'ai envie de revenir à un film important dans votre carrière, Tenue de soirée. Vous avez dit sur Blier, j'ai découvert une nouvelle manière d'écrire avec Bertrand Blier, une nouvelle liberté sur un plateau. Je me suis dit, il a raison, tout est possible au cinéma. Pourquoi on fait du raisonnable? C'est absurde. C'est vrai, quand on revoit Tenue de soirée aujourd'hui, c'est complètement dingue.
Ah oui.
Est-ce que vous pensez tout simplement qu'aujourd'hui, il y a un réalisateur et surtout un producteur qui accepterait de produire un film aussi fou que Tenue de soirée?
Il n'y a pas une télé qui accepterait de rentrer dans l'histoire. Et déjà, c'est, la télé qui finance. C'est un truc évident. Il y a un danger parce que le politiquement correct... nous guette et que toutes les questions peuvent se poser. Est-ce que Dieu sait que ça n'était pas un film qui voulait se foutre de la gueule des homosexuels, mais au contraire rire avec. Et d'ailleurs, à l'époque, ils l'ont extrêmement bien pris, les journaux. Il y avait les journaux. Journal qui était Guépier, qui avait titré « Touche pas à la femme blanche » et qui avait fait un grand article pour dire tout le bien qu'il pensait du film. Mais maintenant, je ne sais pas si ça passerait de la même manière et je ne sais pas s'il y a un producteur qui aurait... les couilles de le faire.
Eva.
Mais peut-être que la solution, ce serait du côté des plateformes, justement, comme Netflix, qui, eux, ont moins d'interdits, en tout cas.
Oui, vous trouvez pas sûr. Je sais, je connais personne chez Netflix, mais c'est pas certain quand même. Hein, parce que c'est une farce extrêmement provocatrice. On peut faire confiance à Bertrand pour ça. Et on y est allé à fond, parce que ce que vous avez à l'écran, à côté de ce qu'on se disait comme horreur sur le plateau, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein.
Votre tandem avec Gérard Depardieu est inoubliable dans ce film. C'est quelqu'un que vous avez suivi ensuite dans la vie, Gérard Depardieu. Vous le fréquentez
Oui, je l'ai fréquenté. D'abord, j'ai rejoué avec lui dans Merci la vie. Ensuite, il y a eu une période où, c'est un secret pour personne, il vivait avec Carole Bouquet, qui est une grande amie, donc j'allais chez eux dîner. Voilà. Là, maintenant, lui aussi,
il est parti un peu loin.
Il est parti un petit peu loin. Là, c'est plutôt vers Décathlon Moscou. Et donc, je ne l'ai pas revu depuis un moment. Mais il n'y a pas de lézard, pour reprendre l'expression de Lanvin, dans Marche à l'ombre. Entre nous, hein, vraiment pas. Si je le croise, ça se passera bien, je pense. Enfin, j'espère.
Le film dont vous êtes le plus fier, Michel Blanc?
Je pense, en tant qu'acteur, je pense que c'est probablement Tenue de soirée. Et puis, je ne veux pas vexer des metteurs en scène, etc. Mais j'ai adoré faire l'exercice de l'état de Pierre Scheller.
Oui.
Parce que c'était une composition complète. Et puis, parce que j'avais envie de faire ce genre de personnage depuis longtemps. C'est-à-dire des gens qui sont des gens pour qui il y a quelque chose de plus important que tout et que eux. Au monde. Alors, je pensais à un militaire, un prêtre, hein, et j'avais pas pensé à un directeur de cabinet.
Ça vous a valu un César, d'ailleurs.
Ouais.
Classe, mais humble.
Non, mais comme quoi.
En revanche, le film que vous regrettez un peu, c'est Les Bronzés 3. Vous dites, les gens nous le réclamaient, donc on a fait Les Bronzés 3, mais sans l'inspiration. C'est un peu con, parce que surtout qu'il y avait un autre projet, c'était de faire un Astérix.
Mais oui, c'était un drame. Gérard avait écrit un nouvel Astérix qu'il devait mettre en scène. Il avait créé un rôle pour chacun de nous. On avait vraiment très envie de se retrouver. Et puis, d'un seul coup, il y a eu, je ne sais pas quoi, une mauvaise entente, disons, entre Uderzo et la production. Uderzo a dit, je ne suis pas d'accord. Et ça ne s'est pas fait. Et ça nous a frustrés. Et c'est pour ça qu'on a cherché quoi faire. Et évidemment, au bout d'un moment, on s'est dit... quoi qu'on fasse, on nous dira pourquoi vous n'avez pas fait Les Bronzés 3. Ça fait 30 ans qu'on vous le demande. Donc c'était perdu.
On attend quand même L'Hôtesse de l'air qui se fait bouffer dans la montagne. Ça pourrait, il faudrait relancer cette idée-là.
Je vais leur en parler.
Pour relancer ça, Michel. Alors Michel, en cinéma, vous êtes calé. Mais en cuisine, est-ce que vous avez fait des progrès depuis Viens chez moi, j'habite chez une copine?
Le problème avec le lapin, la moutarde, c'est que t'attends du lapin, pas du poulet.
Bah oui, j'ai mis ce que j'ai trouvé, moi.
Vous vous êtes amélioré?
Oui, je suis bon en cuisine.
C'est vrai, vous êtes bon maintenant?
J'aime bien cuisiner.
Eh bien, améliorez-vous encore un peu avec notre sauveur culinaire. Saint-Pulse. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu, bonjour Michel Blanc, bonjour mes amis.
Chaque jour, bonjour. Une recette de dernière minute, peut-être, mais néanmoins épatante. Ce soir, l'aligot. L'aligot, le rêve d'Eva devenu réalité.
Allons-y.
Regardez-moi, entre l'évocation des bronzés fonds du ski, la montagne, tout ça, entre ces grandes marches à l'air pur, à cause de grève.
C'est la première fois que vous marchez. Ça fait combien d'années que vous n'avez pas marché comme ça, Olivier?
Là, ça fait pas mal, Depuis 95, je crois.
Depuis 95, voilà la dernière grève, finalement. On embrasse à
Alain Juppé au passage.
Exactement.
Alors l'aligot, Olivier, comment ça se passe?
Mais c'est un plat de montagne lui aussi, mais pas des mêmes montagnes. On n'est pas dans les Alpes, on est là dans les monts de l'Auvergne. Et c'est un plat traditionnel qui remonte à bien longtemps et qui à l'origine...
J'aime cette précision, toujours la précision historique du Alain Decaux.
Le 12e siècle, dit-on. Et à l'origine, c'était un plat qui était préparé à base de bouillon, de pain et de tomes fraîches. Et une année, la récolte de blé n'étant pas bonne, il n'y avait pas de pain à table et donc on mit de la pomme de terre et ainsi est née l'aligot.
Quelle heureuse idée.
Quelle bonne idée.
C'est pas mal ça quand même. Alors l'aligot, c'est un plat qui ensuite s'est répandu et notamment à Paris grâce à l'arrivée des Bougnats, ces Auvergnats qui sont venus restaurer la capitale, la restaurer, pas la réparer, la restaurer, manger. Et donc ils ont apporté dans leur bagage l'aligot qui est devenu extrêmement populaire. Alors l'aligot, c'est quatre éléments indispensables. C'est de la pomme de terre, de la tome fraîche, de la crème fraîche et de l'ail.
J'aime bien que sur l'élément crème fraîche, fait quoi, un sourire s'affiche
Je vous avoue que j'adore ça en plus. Hein. Donc c'est 1 kg de pommes de terre, 400 g de thaume, 250
g.
Alors la pomme de terre à chair plutôt farineuse parce qu'on va faire de la purée. Ah. Donc une pomme de terre qui s'écrase bien. 400 g de thaume, je disais, 250 g de crème fraîche, ah oui quand même, et une belle gousse d'ail. Alors pour réaliser l'aligot, c'est très simple, une purée de pommes de terre, on cuit les pommes de terre dans un grand volume d'eau salée, mais sans les avoir épluchées, bien sûr, pour ne pas que l'eau rentre dedans, on les épluche après. On les écrase ou on les passe au moulin à légumes très finement. On rajoute la crème fraîche, l'ail écrasé. Et là, opération délicate, il faut filer l'aligot. C'est ce qui est un petit peu technique et un petit peu compliqué dans le plat. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va remettre nos pommes de terre à chauffer, on va tourner et au fur et à mesure, on va mettre des petits dés de thome fraîche dedans jusqu'au moment où tout ça s'incorpore bien. Et vous allez voir que l'aligot va se mettre à filer.
Et il va faire des grands fils. Et va adopter une teinte verte. Verdâtre.
Je suis en apnée, en fait.
De toute façon, je mangerai votre part, c'est pas un problème. Et voilà, quand l'aligot file bien, quand il monte, etc., il faut le servir immédiatement. Il faut surtout pas le laisser reposer parce que sinon, il se casse.
Oui, c'est ça. Il faut le manger tout de suite parce qu'il ne se réchauffe pas.
Voilà, exactement.
C'est quand même donc un plat un peu technique. Hein.
C'est un plat. Il y a juste un petit coup de main. C'est ce qu'on appelle filer l'aligot. Et ça dure 5-10 minutes. Hein. C'est pas très, très compliqué quand même.
Rien que de le voir, moi, ça me donne
une bonne saucisse au couteau avec ça. Et plein de jus.
Une bonne saucisse en plus. Effectivement, Olivier Poul, c'est le conseil gagnant. Olivier, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Alors, un petit aligot, Michel, ça vous dit?
Je crois que je vais vomir.
Europe 1. Que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une émission comme la nôtre, c'est maintenant l'étape la plus dure. Conclure. Qui sera élu chroniqueur du jour sous l'œil complice mais exigeant de Michel Blanc? La réponse dans une poignée de secondes.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Les amis, nous arrivons au terme de ces 2 heures ponctuées de moments tantôt passionnants.
J'ai mangé des mandarines jaunes, c'était très bon.
Très intéressant.
Tantôt un peu moins. Toujours est-il que l'heure du dénouement a sonné. Qui sera élu chroniqueur du jour? C'est vous et Michel Blanc, notre invité, qui décidez. Le verdict va tomber, bien sûr, il y aura des déçus.
Charles, je vais te tuer!
Peut-être même des contestations.
Tu comptes pas sur moi l'année prochaine pour la compète, c'est terminé, fini ça.
C'est le moment du kit ou double, les sapins écolos, les secrets de la success story Décathlon, les derniers trésors de Michel Legrand ou les coulisses du Goncourt. Thierry Geffrotin, pourquoi Michel Blanc devrait-il voter pour vous aujourd'hui?
Eh bien, réfléchis. Parce qu'il est pianiste et qu'il faut qu'il se remette au piano.
Il faut qu'il récupère son Steinway. Nicolas Carreau, pourquoi voter pour vous aujourd'hui?
Je ne veux pas me la jouer, mais j'ai quand même raconté une anecdote que personne ne connaissait depuis 60
c'est
ans.
Vrai.
Quoi.
C'est vrai
pas
que vous
rien
avez
pour
du lourd aujourd'hui,
dîner,
Nicolas.
Ouais, ouais.
C'est vrai que c'est pas mal pour se la jouer dans le dîner ce soir. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous et vos sapins?
Parce qu'un sapin qui n'est pas écolo, ça fout les boules.
Quand on reçoit un dialoguiste du niveau de Michel Blanc.
Je me demandais qui allait la sortir, celle-là.
J'aurais pas dû.
Et oui. Emmanuel Dutheil, vous avez mieux?
Parce que moi, j'ai compris que vous étiez peiné de ne pas faire de sport en ce moment, donc je vous ai emmené faire tranquillement du sport chez Decathlon.
Et en plus, en Russie.
En plus.
Vraiment surprenant. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Eh bien, 2 points pour le sportif, Emmanuel Dutheil.
Soyez pas étonnés, on dirait tellement qu'il est mérité.
Pas du tout, c'est ce que vous avez lu dans mon regard.
Oui,
totalement. Je suis déçu. Non, pas du tout. Pour ma part, je donne mon point effectivement à Nicolas Carreau qui nous a cité une archive inédite et j'aime bien qu'on bosse pour moi. Vous le savez, ici, la voix de notre invité d'honneur compte triple. Michel Blanc, le sort de 4 journalistes en CDI est entre vos mains. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Moi, je donnerais. La préférence à cette anecdote, non pas seulement à cause de cette anecdote, mais la manière de la raconter.
Ah, je suis touché. Les trois points et le compliment en plus de Michel Blanc.
De Michel Blanc, quoi.
C'est Nicolas Caro qui remporte la 74e journée de l'Équipée Sauvage et qui fait un bon classement. Merci. Michel Blanc était notre invité. On le retrouve la semaine prochaine à l'affiche de Docteur de Tristan Seguela avec l'épatant Hakim Gemini que vous allez découvrir dans ce film. Merci Michel d'avoir joué le jeu dans ces deux heures.
Merci, c'était très agréable.
Merci également à tous mes journalistes, Eva Rock, Anne Le Gall, Thierry Geffrotin, Emmanuel Duteil, Nicolas Caro et Olivier Pouls. L'Équipée Sauvage revient demain 16h. Tout de suite, vous restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre Équipée Sauvage qui fait du bien particulièrement en ce moment. Demain, vous l'avez dit, 16h pour les meilleurs moments de la semaine. On se retrouve avec plaisir lundi. Salut Mathieu, bon week-end.
Europe 1, 18h-20h, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.